Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonjour. Bonjour également aux équipes techniques de Radio Courtoisie, au micro Marc Favre des Chalins. Dans le studio, je reçois Robert Kopp, écrivain, professeur émérite de littérature française à l'Université de Bâle, président de la Société d'études françaises de Bâle. Notre entretien portera sur l'œuvre de Madame de Sévigné, qui est née il y a 400 ans, avec comme point d'ancrage le numéro spécial de la revue Lire, consacré à Madame de Sévigné. Au préalable, je rappelle à nos auditeurs les coordonnées de l'association Défense de la langue française, son adresse postale 222 avenue de Versailles, 75016 Paris, son numéro de téléphone 01 42 65 08 87, son adresse courriel dlf.contact@orange.fr et enfin son site internet, son nouveau site internet d'ailleurs, www.langue-française-sans-cédille.org. Nos éditeurs peuvent téléphoner au numéro que je viens d'indiquer pour recevoir un exemplaire de la revue de 80 pages afin de se faire une idée de nos actions et de nos combats. Le combat concernant la défense de la langue française et des activités de cette association et des autres associations comme Avenir de la langue française sont multiples et variés. Nos auditeurs connaissent déjà les interventions auprès de la presse écrite et dans les médias audiovisuels pour la qualité de la langue et lutter contre les dérives de l'écriture faussement inclusive. D'ailleurs, une action est en cours auprès de l'ARCOM concernant l'utilisation abusive de néologismes liés à l'anglais. Par exemple, on entend parfois les kick-offs au lieu de démarrage ou donner un coup d'envoi. Les incorrections peuvent également être indiquées pour les auditeurs qui écoutent Radio France ou par exemple France Inter ou France Culture. Il y a une lettre, la lettre de la médiatrice Emmanuelle Davier, qui est très intéressante et qui reprend les critiques que nos auditeurs peuvent constater. Donc c'est toujours très intéressant. Naturellement, les réflexions, les remarques ou les critiques se font toujours de façon courtoise. Nous sommes sur Radio Courtoisie. Jean-Pierre Collignon, que nous connaissons bien et que les éditeurs connaissent bien, organise des dictées. Et je rappelle aussi les dictées organisées par Rachid Santaki, créateur de la dictée géante, qui chaque semaine organise des dictées. Je cite deux dictées, une pour nos auditeurs voyageurs, le 25 avril au Centre culturel du lycée français de New York. Il y a une dictée qui est organisée de 13h30 à 14h30 et plus proche le samedi 9 mai à Nevers dans l'amphithéâtre de l'agglomération de Nevers. Il y a une dictée, donc c'est toujours intéressant, c'est une dictée ludique et pas du tout on utilise le bon français sans excès. Voilà, c'est pour faire connaître à tout public ces actions. Il y a également des actions contentieuses, en particulier concernant la langue, les doubles traductions. La loi Toubon oblige, lorsqu'il y a une collectivité publique ou un établissement public, lorsqu'il y a une traduction, de traduire en deux langues. C'est pour la nécessité de la pluralité linguistique. Et parfois, les différentes collectivités oublient. Il y a également une action qui est en cours, malheureusement, à l'encontre de la réserve ornithologique du Teche, en Aquitaine, car cet organisme n'a pas répondu aux sollicitations aimables. Donc, malheureusement, nous sommes devant un tribunal administratif. On devrait effectivement gagner, puisque uniquement l'anglais a été utilisé. Enfin, avant de commencer notre entretien, je cite deux publications. La publication de Michel Feltin-Palas, « C'est quoi déjà le mot en français ?» paru chez Léopold, 17 euros. Et puis le dernier livre de notre invité, Robert Kopp, « Le Paris des Goncourt », aux éditions Alexandrine, 11 euros. Donc c'est une collection, je crois, qui c'est le Paris des concours ou le Paris
Le Paris de Baudelaire, voilà. Le Paris de donc Colette, le Paris des surréalistes.
Ce sont des ouvrages de taille relativement restreinte, mais très, oui. très intéressant. Nous allons commencer notre entretien avec Robert Kopp, qui va nous parler de la marquise de Sévigné et de son 400e anniversaire de sa naissance. C'est les lettres qu'elle a, elle a écrit, de nombreuses lettres à sa fille et à d'autres personnes. Donc, moi personnellement, j'avais une connaissance un petit peu scolaire de ces lettres. Donc, je crois que Robert Cobb va nous montrer, nous expliquer la qualité et l'importance de ces lettres dans la littérature française.
Oui, très volontiers, cher Marc. En effet, on fête cette année le 400e anniversaire de Marquise de Sévigné. Et de multiples événements sont organisés, beaucoup de publications viennent de paraître ou sont annoncées. Et je commencerai peut-être par signaler une grande exposition qui a lieu à l'hôtel du Carnavalet, c'est-à-dire sur les lieux mêmes où Madame de Sévigné a vécu les 20 dernières années. Je ne sais pas si j'arrive à montrer à l'écran.
Si. On voit un petit peu plus à gauche, je crois.
Un peu plus à gauche.
Voilà.
Si j'arrive un peu plus haut,
voilà.
Ce magnifique catalogue de cette exposition qui vient de s'ouvrir la semaine dernière, donc à l'hôtel du Carnavalet. Et le titre de cette exposition, c'est « Madame de Sévigné, lettres parisiennes ». Donc, on focalise sur les années parisiennes de Madame de Sévigné, parce qu'elle n'a pas seulement vécu à Paris, elle a vécu aussi en Bourgogne, en Bretagne ou dans le Midi, chez sa fille. Je signale que l'exposition a été organisée par Anne-Laure Sol, qui est conservatrice au musée du Carnavalet et qui est la commissaire de cette magnifique exposition qui évoque la vie quotidienne de Madame de Sévigné. Il y a énormément de tableaux, de mobilier, d'objets et bien entendu quelques lettres, encore que très peu d'originaux aient été conservés. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'on célèbre Madame de Sévigné. Déjà, en 1926, on a fêté les 300 ans, absolument. Entre les deux, on avait fêté les 350 ans. C'est dire que Madame de Sévigné est un auteur patrimonial depuis un certain temps déjà. C'est paradoxal dans la mesure où elle-même n'a jamais vu paraître une de ses lettres. D'ailleurs, elle n'aurait pas voulu que ses lettres soient publiées. Elle disait même à son cousin Bussy-Rabutin qu'elle n'avait aucune envie d'être entre les mains de tout le monde.
Donc, la lettre était destinée à sa fille en priorité et à son entourage.
Oui. À sa fille, c'est-à-dire on cite toujours aujourd'hui celle adressée à sa fille, le corpus actuel, c'est-à-dire les textes que nous avons, ce sont à peu près 1100 lettres, dont les deux tiers, quelques 760, sont adressées à sa fille. Mais et là, l'édition de référence, je la montre également, l'édition de référence, ce sont les trois volumes
la Pléiade.
Que Roger Duchesne, le plus grand spécialiste de Madame de Sévigné, a publié dans la bibliothèque de la Pléiade entre 1972 et 1978, réimprimé, mis à jour plus d'une fois et présenté cette année pour le 400e anniversaire sous forme d'un très beau coffret. Ça, c'est donc l'édition de référence. Mais Duchesne, qui connaissait le mieux tous ces documents, estimait que on avait perdu beaucoup de lettres. Il a noté, par exemple, que la correspondance avec son fils Charles, car elle n'avait pas seulement une fille, Madame de Grignan, mais aussi un fils, Charles, dont elle était sans doute aussi proche que de sa fille, eh bien, cette partie-là semble être perdue. De la même manière, il y a d'autres parties qui semblent être perdues. On estime que les lettres ou la correspondance ou l'échange de lettres avec Madame de Lafayette est très incomplet, que là aussi nous avons des pertes à déplorer. Roger Duchesne estimait même que si on avait toutes les lettres, il y aurait matière pour un quatrième volume de la Pléiade.
C'est tout est possible, peut-être que les recherches
C'est peu probable.
C'est peu probable.
Mais c'est donc une correspondance importante, mais tout de même assez lacunaire. Et il ne faut pas mettre en avant exclusivement les rapports de Madame de Sévigné et de sa fille.
Oui. Nous allons d'ailleurs pour nos auditeurs, nous allons entendre une lettre, la lettre du 5 février 1674, qui est connue puisqu'il y avait un incident sur un carrosse. Donc nous allons entendre cette lettre qui, ça va permettre de donner à nos auditeurs un aperçu disons, une lettre parmi 1100.
Lettre 123. De Madame de Sévigné à Madame de Grignan. À Paris, lundi 5 février 1674. Il y a aujourd'hui bien des années, ma fille, qu'il vint au monde une créature destinée à vous aimer préférablement à toute chose. Je prie votre imagination de n'aller ni à droite ni à gauche. Cet homme-là, sire, c'était moi-même. Il y eut hier 3 ans que j'eus une des plus sensibles douleurs de ma vie. Vous partîtes pour la Provence où vous êtes encore. Ma lettre serait longue si je voulais vous expliquer toutes les amertumes que je sentis et que j'ai senties depuis en conséquence de cette première. Mais revenons. Je n'ai point reçu de vos lettres aujourd'hui. Je ne sais s'il m'en viendra. Je ne le crois pas, il est trop tard. J'en attendais cependant avec impatience. Je voulais apprendre votre départ d'Aix afin de pouvoir supputer un peu juste votre retour. Tout le monde m'en assassine et je ne sais que répondre. Je ne pense qu'à vous et à votre voyage. Si je reçois de vos lettres après avoir envoyé celle-ci, soyez en repos. Je ferai assurément tout ce que vous me manderez. Je vous écris aujourd'hui un peu plus tôt qu'à l'ordinaire. Monsieur de Corbinelle et Mademoiselle de Méry sont ici qui ont dîné avec moi. Je m'en vais à un petit opéra de Molière, beau-père d'Itier, qui se chante chez Pélissari. C'est une musique très parfaite. Monsieur le prince, monsieur le duc et madame la duchesse y seront. Je m'en irai peut-être de là souper chez Gourville avec madame de Lafayette, monsieur le duc, madame de Tiange, monsieur de Vivonne, à qui l'on dit adieu et qui s'en va demain. Si cette partie est rompue, j'irai chez madame de Chaunes. J'en suis extrêmement priée par la maîtresse du logis et par les cardinaux de Rèze et de Bouillon qui me l'avaient fait promettre. Le premier est dans une extrême impatience de vous voir. Il vous aime chèrement. Voici une lettre qu'il m'envoie. On avait cru que mademoiselle de Blois avait la petite vérole, mais cela n'est pas. On ne parle point des nouvelles d'Angleterre. Cela fait juger qu'elles ne sont pas bonnes. Il n'y a eu qu'un bal ou deux à Paris dans tout ce carnaval. On y a vu quelques masques, mais peu. La tristesse est grande. Les assemblées de Saint-Germain sont des mortifications pour le roi et seulement pour marquer la cadence du carnaval. Le père Bourdalou fit un sermon le jour de Notre-Dame qui transporta tout le monde. Il était d'une force à faire trembler les courtisans et jamais prédicateur évangélique n'a prêché si hautement ni si généreusement les vérités chrétiennes. Il était question de faire voir que toute puissance doit être soumise à la loi, à l'exemple de notre Seigneur, qui fut présenté au temple. Enfin, ma fille, cela fut porté au point de la plus haute perfection, et certains endroits furent poussés comme les aurait poussés l'apôtre saint Paul. L'archevêque de Reims revenait hier fort vite de Saint-Germain. C'était comme un tourbillon. Il croit bien être grand seigneur, mais ses gens le croient encore plus que lui. Il passait au travers de Nanterre, tra tra tra. Il rencontre un homme à cheval. Gare, gare! Ce pauvre homme veut se ranger, son cheval ne le veut pas. Et enfin, le carrosse et les 6 chevaux renversent cul par-dessus tête le pauvre homme et le cheval et passent par-dessus et si bien par-dessus que le carreau s'en fut versé et renversé. En même temps, l'homme et le cheval, au lieu de s'amuser à être roués et estropiés, se relèvent miraculeusement, remontent l'un sur l'autre, et s'enfuient et courent encore, pendant que les laquais de l'archevêque et le cocher, et l'archevêque même se mettent à crier « Arrête, arrête ce coquin, qu'on lui donne 100 coups !» L'archevêque, en racontant ceci, disait « Si j'avais tenu ce maraud-là, je lui aurais rompu les bras et coupé les oreilles. » Je dînais hier encore chez Gourville avec Madame de Langeron, Madame de Lafayette, Madame de Coulanges, Corbinelli, l'abbé Tétu, Briol et mon fils. Votre santé y fut célébrée et un jour pris pour vous y donner à dîner. Adieu, ma très chère et très aimable. Je ne puis vous dire à quel point je vous souhaite. Je m'en vais encore adresser cette lettre à Lyon. J'ai envoyé les deux premières au Chamarier. Il me semble que vous devez y être ou jamais. Je reçois dans ce moment votre lettre du 28, elle me ravit. Ne craignez point, ma bonne, que ma joie se refroidisse. Je ne suis occupée que de cette joie sensible de vous voir et de vous recevoir et de vous embrasser avec des sentiments et des manières d'aimer qui sont d'une étoffe au-dessus du commun et même de ce que l'on estime le plus.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs, vous avez pu entendre entièrement la lettre du 5 février 1774. C'est lu par intermédiaire d'un site qui s'appelle littératureaudio.com. Qui est le site de l'association Lire et Entendre, dont l'objet est de faciliter l'accès de tous, en particulier les non-voyants et les malvoyants, aux joies de la littérature. Et la lectrice, la donneuse de voix, comme cette association donne ce titre, s'appelle Cocotte. Voilà, ça permet effectivement, c'est un site très, très intéressant, ça permet d'écouter et de découvrir pour certains ces lettres. Voilà. Alors, cher Robert, donc vous avez entendu voilà, une lettre qui est en fait comme une chronique de l'actualité du 5 février 1774. Est-ce que toutes les lettres de Madame de Sévigné sont sur la même tonalité ou...
Oui, beaucoup de lettres sont sur la même tonalité. Vous avez choisi un excellent exemple, à la fois pour le contenu et pour le ton. C'est d'abord une chronique de la vie quotidienne, et non seulement de ce que Madame de Sévigné a vécu elle-même, mais aussi ce dont elle entend parler, les nouvelles. Ça fait un peu gazette.
Oui, ça fait un peu gazette. Oui. D'ailleurs, je tiens à préciser pour les auditeurs que l'archevêque de Reims de l'époque était le frère de Louvois, qui était le ministre de la guerre. Donc c'était une personnalité très importante.
Oui, oui, et ça fait gazette. Et en effet, Madame de Sévigné passe son temps à aller chez les uns et chez les autres, c'est-à-dire un cercle peut-être de 200 familles au total, ou de 200 connaissances qui ne se fréquentent pas toujours intensément les uns les autres, mais qui ont des liens de parenté, qui ont des liens à travers leurs fonctions à la cour, à l'armée, dans l'église, car tout cela se tient. Et donc, Madame de Sévigné raconte à bride abattue, en passant des choses anecdotiques aux choses plus sérieuses, c'est-à-dire d'un accident de carrosse au serment de Bourdaloue, ce que fait le roi au carnaval qui se déroule dans les rues de Paris. Donc, il n'y a pas d'ordre et il n'y a pas d'hiérarchie. Les choses sont plus ou moins mélangées et elle écrit un peu à la va comme je te pousse.
C'est spontané, c'est...
Oui, c'est spontané.
Un petit peu travaillé quand même.
C'est spontané et un peu travaillé quand même, en effet. D'abord, les lettres telles que nous les lisons aujourd'hui sont toutes un tantinet lissé, un tantinet réécrite, car sur les 1100 lettres que nous connaissons, il n'y a qu'une poignée que nous connaissons par l'original. Au musée du Carnevalet, il y en a qui sont exposés. On voit l'écriture très rapide de Madame de Sévigné qui commence en haut à gauche et qui remplit absolument tout sur une page, car non seulement elle va vite, mais aussi le papier coûte cher et il faut bien l'utiliser. Donc, nous ne connaissons qu'une poignée de lettres dans l'original. Et elle-même n'a jamais pensé publier aucune de ses lettres. Ses lettres étaient destinées à un cercle restreint, le cercle familial, le cercle des amis. Certes, certaines lettres ont été lues dans des salons, d'autres ont été recopiées pour être montrées à des connaissances, mais jamais elle n'a pensé publier quoi que ce soit. Et lorsque son cousin, Bussy-Rabutin, lui propose de faire comme Madame de Lafayette l'avait fait avec La Rochefoucauld, de faire un roman à quatre mains, elle refuse, elle ne veut pas du tout être écrivain. Non, le statut d'écrivain ne l'intéresse pas. Non, absolument pas. Il n'empêche que son cousin Bussy, encore, est un des premiers, sinon le premier, à reconnaître son talent, son réel talent d'écriture.
Pardon, je vous coupe. Ce talent, il était reconnu de son vivant
Ce talent était reconnu de son vivant dans son cercle intime, mais pas au point que on ait voulu publier ses lettres, sauf encore une fois Bussy, qui en insère quelques-unes dans ses mémoires, qui sont publiées après sa mort à lui et après sa mort à elle, par le fils de Bussy. Donc, dans les mémoires de Bussy, à l'extrême fin du siècle, on a quelques lettres de Madame de Sévigné. Et ensuite, toujours le fils de Bussy publie la correspondance de son père, et dans cette correspondance, il y a un certain nombre de lettres de Madame de Sévigné. Et au début du XVIIIe siècle, paraissent, de façon officieuse, car la famille n'a pas donné son accord, quelques volumes de lettres. Et c'est à partir du premier tiers du XVIIIe que paraissent successivement des volumes de plus en plus complets. Car des copies ont été levées, notamment par le fils de Bussy, et puis des copies de copies et des copies de copies de copies, si bien que le texte a souvent été un peu altéré, d'autant que un homme comme Voltaire, par exemple, qui estimait qu'elle écrivait bien, mais de façon trop négligée. Et le 18e est un siècle peut-être plus classique encore que le 17e pour ce qui est de la langue. Donc, on a corrigé certaines imperfections.
La langue n'était pas complètement fixée encore.
Et les normes étaient en voie d'être fixées. Il ne faut pas oublier que l'Académie française a été fondée par Richelieu en 1635 et elle avait un cahier des charges, c'est-à-dire s'occuper de la langue, A par un dictionnaire, B par une grammaire, C par une rhétorique. Le dictionnaire apparu à l'extrême fin du siècle. Madame de Sévigné ne l'a plus consultée parce que elle est morte à peu près au moment où paraissait le premier volume du dictionnaire. Donc, on estimait que cette langue était un peu négligée, qu'elle utilisait trop d'expressions empruntées, soit aux parlers locaux de Bretagne, de Bourgogne, voire du Midi, qu'elle inventait des mots, des néologismes, etc. etc. Et donc, ces textes étaient un tantinet lissé. Elle est donc devenue un grand auteur malgré elle, et à partir du XVIIIe siècle, elle a été reconnue comme telle, et il y a un certain culte autour de son nom, non seulement en France mais aussi à l'étranger. Tenez par exemple Horace Walpole, l'Anglais qui a fait un grand voyage en France et qui a laissé un récit de ce voyage je crois que c'était en 1766 ou quelque chose
comme ça. Une centaine d'années après, en fait.
Une centaine d'années après, eh bien, il parle d'elle, il va sur les lieux où elle a vécu, et dans son château de Twickenham, il installe un coin sévigné, en quelque sorte. Voilà. Ensuite, elle devient un auteur patrimonial au XIXe siècle. Sainte-Beuve lui consacre un de ses portraits de femme. Et ensuite, elle est parmi les tout premiers auteurs qui sont publiés dans la collection Les grands écrivains de la France, fondée à la fin du Second Empire et développée notamment au début de la Troisième République. Donc, elle voisine à partir de la fin du Second Empire dans une édition en 14 volumes, dans deux volumes consacrés à son vocabulaire, ce qui montre bien que tous les termes n'étaient peut-être pas aussi familiers au lecteur.
Parce que c'était trop... ça reflétait la langue du XVIIe ou le parler local.
C'était à la fois la langue du XVIIe, matinée de parler locaux.
C'est intéressant pour la langue, d'ailleurs, c'est très intéressant.
Très intéressant pour la langue, c'est bien pour ça que les éditeurs ont consacré, dès les années 1860, deux volumes à la langue de Madame de Sévigné. Et elle voisinait dans cette édition avec La Fontaine, avec Molière.
Madame de Lafayette aussi, peut-être
Un peu plus tard, avec Corneille. C'est que, si on regarde sa langue, elle est un tout petit peu l'envers du grand siècle tel qu'on nous l'a enseigné à l'école. Vous vous souvenez, cher Marc, que vous avez appris que la figure de style qui caractérise le classicisme, c'est la litote, c'est-à-dire dire le plus avec la plus grande économie de moyens. Si bien que Racine utilise, je ne sais, 4000 mots.
Voilà, c'est
non,
ça.
Non, pas quand même.
500, c'est la langue faible.
Voilà, c'est-à-dire un vocabulaire réduit et on veut dire un maximum de choses avec un minimum de moyens. Ce n'est pas du tout ce que recherche Madame de Sévigné. Elle veut dire un maximum de choses avec des moyens extrêmement variés. Donc, c'est un peu l'envers du siècle classique, ou plus exactement, c'est le versant baroque de ce siècle classique. Car classicisme et baroque sont contemporains. Et même à l'intérieur, d'ailleurs, du classicisme, on a tout d'un coup des espèces d'excroissances baroques. Et là encore, vous avez le Lagarde et Michard devant vous.
Oui, j'ai le Lagarde et Michard.
Il n'y a pas seulement un chapitre important consacré à Madame de Sévigné, il y en a un autre consacré à Racine, et je suis sûr qu'il y a le récit de Théramène, Thésée, qui a appelé Neptune et qui se venge d'Hippolyte. Hippolyte est entraîné par son char parce que les choses sont effrayées par un monstre marin. Et ce récit est évidemment une espèce d'excroissance baroque au milieu d'une tragédie classique. Mais je ferme la parenthèse. Vous avez signalé ce fascicule.
Très beau, numéro spécial très intéressant dans lequel...
Oui.
Vous avez fait...
Il faut le situer dans la série, ou plutôt dans la lignée des hors-séries de Lire Magazine. Vous savez que Lire Magazine est né de la conjugaison entre le magazine littéraire et Lire, et que en dehors du journal ou de la revue mensuelle, paraissent 4 fois par an des numéros hors-série, et il faut rendre hommage à Alexis Broca, qui est responsable,
oui,
entre autres.
D'ailleurs, ce numéro est très complet, permet de comprendre Madame de Sévigné dans son siècle, avec les autres auteurs.
Oui, c'est le but de chacun de ces numéros.
Il y a quelques articles amusants, celle de Stéphanie Hochet,
oui,
sur le féminisme, entre guillemets, de...
Mais il y a du pré-féminisme, évidemment, oui, chez Madame de Sévigné. Il est évident. Madame de Sévigné, oui, n'hésitons pas, est une féministe, même si le mot, évidemment, n'existe pas. Dans quel sens?
Une femme d'action, une femme en action.
Non, aussi, mais surtout une femme qui réclame pour les femmes une éducation. Et c'est le mouvement des précieuses que nous avons le tort de voir à travers
Molière,
Molière et à travers cette espèce de retour de bâton d'un mouvement anti-précieux dans les années 60. Non, il y a un processus de civilisation, pour utiliser un terme de Norbert Elias, un processus de civilisation qui se met en place dans la première moitié du XVIIe siècle, essentiellement après la mort de Henri IV, et qui est porté par des femmes. Précieux, c'est donner du prix à. Donc, donner du prix à une langue soignée, donner du prix à une éducation complète, donner du prix à de bonnes manières, donner du prix à des échanges courtois entre hommes et femmes. Il ne faut pas oublier que les femmes étaient, je parle de la noblesse et de la grande bourgeoisie, étaient mariées selon des critères familiaux, de situation, de fortune, etc., que on ne demandait jamais l'avis
aux femmes.
Et on leur donnait un mari. Donc, ce mouvement des précieuses, c'est un mouvement de revendication qui est porté par des salons comme celui de Madame de Rambouillet, celui de Mademoiselle de Scudéry et beaucoup d'autres. Et dans le dictionnaire des précieuses de Sommaise, on énumère quelques 200 salons parisiens. Il ne faut pas croire que c'est un mouvement isolé. C'est un mouvement qui a duré presque un demi-siècle et évidemment qui a produit un certain nombre d'excès, dont Molière se moque. Oui. C'est une espèce de retour de bâton. Mais Madame de Sévigné a été élevée dans ce milieu-là.
La liberté des femmes dans un siècle où les femmes étaient contraintes.
La liberté, la dignité et le respect dû aux femmes, ça commence par là, c'est-à-dire de leur accorder voix au chapitre. Alors, Madame de Sévigné était particulièrement bien placée car elle était veuve à 25 ans, avec deux enfants à charge. Elle a toujours refusé de se remarier parce qu'elle ne voulait pas aliéner sa liberté. Et elle ne voulait surtout pas partager avec un nouveau mari l'éducation de ses enfants. Par exemple, elle avait une situation de fortune qui, sans être excellente, lui permettait de vivre librement.
C'est elle avait... important.
Oui, c'est très important. Donc, la veuve bénéficie au XVIIe siècle d'un statut d'indépendance dont ne bénéficie pas la femme mariée. Non mariée ou la femme mariée. Enfin, la jeune fille est là.
La jeune fille est sous la coupe de son père.
La jeune fille est sous la coupe de son père et la femme est sous la coupe de son mari. Et ceux qui ne sont pas dans le siècle sont poussés au couvent, surtout s'il faut garder une partie du patrimoine pour l'aîné de la famille, etc., etc. Donc, elle était dans une situation privilégiée d'indépendance et cette indépendance, elle y a tenu. En revanche, elle n'a pas du tout joui de l'aisance de Madame de Lafayette, par exemple, qui avait un grand hôtel particulier rue de Vaugirard. Elle était toujours locataire. Et lorsque elle a emménagé à l'hôtel du Carnavalet, la Carnavalette, comme elle disait, elle a choisi ce lieu parce qu'il était suffisamment grand pour accueillir sa fille et sa famille quand ils étaient de passage à Paris, son fils, son oncle, des cousins, etc. Elle rêvait d'une espèce de phalanstère où tout le monde aurait pu se côtoyer, mais au-dessus de chaque porte était inscrit plus ou moins, ou au moins virtuellement, chacun fait ce qui lui plaît. Mais ces hôtes, très souvent, étaient des hôtes payants. Elles faisaient participer. Elles n'avaient pas suffisamment de moyens pour acheter l'hôtel, elles le louaient.
C'est très moderne.
Elles le louaient cher. Donc, elle était en colocation. Elle était en colocation avec sa famille. Il n'empêche qu'elle le raconte, puisqu'elle donne beaucoup de détails, et c'est le charme, un des charmes de sa correspondance, beaucoup de détails matériels. Quand elle aménage, elle raconte quand même à sa fille, voilà, c'est assez confortable, vous pourrez être au premier, je pourrais être au rez-de-chaussée ou l'inverse, etc. Il y a quand même 4 boxes pour des carrosses et de la place pour 18 chevaux. Et elle ajoute, à la rigueur, on peut même ouvrir un 5e box pour un 5e carrosse. Donc, il n'était pas vraiment à l'étroit. Il n'empêche qu'elle devait calculer, et on le voit aussi à travers la relative modicité, et ça apparaît très bien dans l'exposition du Carnavalet, des cadeaux qu'elle fait. Elle ne fait jamais de cadeaux somptueux, parce qu'elle n'en a pas les moyens. Elle fait des cadeaux extrêmement bien choisis, des tasses de café, des chocolatières, des éventails, des gravures, etc., mais relativement modestes. De la même manière, elle va au théâtre, mais elle ne va pas au théâtre de manière frénétique. Elle aime pourtant le théâtre, mais il se pourrait qu'elle se freine un tout petit peu aussi à cause de la cherté des places.
Le théâtre à l'époque était très cher.
Le théâtre était relativement cher. Si on voulait être placé là où on devait être placé, car elle ne pouvait évidemment pas s'aventurer dans le parterre.
Oui.
Voilà. Donc, elle était à l'aise, parfois un tout petit peu gênée aux entournures, et cela apparaît très bien dans ses lettres, c'est un des intérêts. C'est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup de lettres ont probablement été détruites, parce que il est trop souvent question d'argent, de dette, d'emprunt.
Ça ne se faisait pas pour...
Non, voilà. C'est-à-dire, ça ne se faisait pas pour ceux qui publiaient les lettres.
Voilà.
Et puis, la famille n'avait pas envie qu'on sache à quel point, par exemple, elle s'est elle-même endettée pour constituer une dot importante à sa fille. À quel point son gendre, le comte de Grignan, avait des difficultés à tenir son rang comme lieutenant général en Provence. Donc, les détails matériels, oui, c'est amusant dans la mesure où ça concerne la vie de tous les jours. Ça l'est beaucoup moins quand ça met en cause le fonctionnement même de la famille, pour ne pas dire de la dynastie.
Oui, c'est très intéressant. Ça permet plus de comprendre l'univers dans lequel elle baignait, le siècle.
Absolument.
C'était pas vraiment le siècle des Lumières.
Ah non, c'était pas du tout.
C'était bien avant.
C'était pas du tout le siècle des Lumières, parce que on chercherait vainement dans les lettres de Madame de Sévigné une critique de la monarchie. Alors, elle se moque des nobles. Il y a des scènes tout à fait amusantes, par exemple, lorsque l'on remet le cordon de Saint-Louis à son gendre, qui d'ailleurs est dispensé d'être présent lui-même puisqu'il est en Provence. Mais toujours est-il qu'il y a une cinquantaine de nouveaux récipiendaires, et elle va à la cérémonie et elle raconte en plus d'une lettre comment les uns et les autres se poussent pour être bien placés, comment ils en viennent carrément aux mains pour des questions de préséance, comment la perruque de l'un est de travers parce qu'il s'est trop agité, comment l'autre se prend les pieds dans l'épée de son voisin parce que il n'est pas au bon endroit. Et donc, elle se moque de cette comédie nobiliaire à la cour. Il n'empêche que quand la reine lui adresse la parole, elle s'empresse de le raconter, oui, et elle en est extrêmement émue. Et quand le roi la retient à Versailles pour dîner, j'entends un dîner de 150 ou 200 personnes, oui, n'oublions pas, ce ne sont pas des dîners intimes, eh bien, elle s'empresse de le raconter.
Elle était admise à la cour, donc.
Elle était admise à la cour. Elle était admise à la cour, mais avec certaines réserves. Elle aurait bien aimé jouer un certain rôle à la cour, mais dans sa famille, il y avait des gens qui étaient proches de la Fronde, c'est-à-dire cette Fronde contre la monarchie sous Louis XIII. Il ne faut pas oublier le pouvoir sous Louis XIII. Elle-même est née en 26, Louis XIV ne prend le pouvoir que 35 ans plus tard. Donc elle vit sous Louis XIII, elle vit la régence.
Mazarin.
Elle vit absolument Mazarin. Donc le pouvoir étant à certaines époques mal assuré, nous sommes à la fin de la guerre de 30 ans. 48, c'est la paix de Westphalie. Et éclate en France une double fronde. D'abord, la contestation du pouvoir royal par le Parlement, la contestation par les nobles. Et il ne faut pas oublier que Louis XIII a voulu limiter le pouvoir de la régente en instituant un conseil de gouvernement. Qu'est-ce qui a été fait le lendemain de sa mort? On a cassé son testament.
C'est habituel dans la monarchie française.
J'allais dire, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois. On a fait la même chose pour Louis XIV. Donc, on voit bien que le pouvoir n'est pas totalement assuré et qu'il est par moments contesté. Donc, dans l'entourage et dans la famille de Madame de Sévigné, il y a eu des frondeurs. Un de ses oncles par alliance est le cardinal de Retz, qui a quand même vécu en exil pendant assez longtemps. D'autre part, il y a dans sa famille des amis, des jansénistes. Alors, frondeur d'un côté, janséniste de l'autre.
Pour Louis XIV, c'est un petit
pour
peu
Louis
difficile.
XIV, c'est un peu délicat. Et donc, elle est admise à la cour. Elle fait danser sa fille, Madame de Grignan, enfin, qui n'est pas encore Madame de Grignan. Elle sait danser sa fille plusieurs fois avec le roi. Oui, absolument. Et on colporte même que le roi n'était pas insensible à sa beauté. Il y a trois ballets royaux qu'elle a dansés. Et sans doute, Louis XIV aurait aimé pousser son avantage. Et Bussy, le cousin de Madame de Sévigné, ne voyait pas ça de mauvais œil. Lui, qui était exilé en Bourgogne, il s'est dit, si jamais la fille de ma cousine passe par la couche royale, ça va arranger mes affaires. Elle semble avoir...
Plus réservée.
Elle était sur la réserve. Elle avait une réputation de froideur, qu'elle tenait d'ailleurs de sa mère. Et toujours dans votre Lagarde et Michard, vous trouverez le poème de la fable de La Fontaine, Le lièvre amoureux, qui est dédié à Mademoiselle de Sévigné, à la fille. Alors, souvenez-vous, le lion amoureux, il est tellement doux finalement qu'on va lui limer les griffes. Or, la fable est dédiée à Mademoiselle de Sévigné, qui est nommée. Cette relative froideur, ou cette distance, ou cette réserve, était déjà celle de sa mère. Je ne sais pas si j'arrive à trouver dans mes fiches le portrait que fait Bussy de sa cousine, qui est tout à fait édifiant. Mais évidemment, quand on cherche quelque chose, on a du mal à le trouver.
On vient de me faire porter que Nathalie Baye, qui malheureusement est décédée il y a quelques jours, avait lu une lettre de Madame de Sévigné au Grand Échiquier.
Ah, tiens.
Donc, oui. on n'a pas l'extrait, mais donc ça montre que Madame de Sévigné est de tout temps dans l'actualité. Et donc, ça, c'est très important.
Oui, je voulais vous donner connaissance de ce portrait de Bussy. Le voici.
Ah.
Bussy a d'abord fait circuler en manuscrit et ensuite fait publier à Liège l'histoire amoureuse des Gaules. Nous sommes dans les années 60, au tout début du règne de Louis XIV, et cette histoire amoureuse des Gaules, c'est une histoire satirique des mœurs légères de la cour de Louis XIV. Et il donne à la fin de son livre des clés. Et alors, Madame de Sévigné, dit-il, a d'ordinaire le plus beau teint du monde, des yeux petits et brillants, la bouche plate mais de belle couleur, le front avancé, le nœud semblable à soie, ni long ni petit, carré par le bout, la mâchoire comme le bout du nez, et tout cela qui, en détail, n'est pas beau, est à tout prendre assez agréable. Mais voici la pique. Il y en a qui disent que pour une femme de qualité, son caractère est un peu trop badin. C'est-à-dire, la langue parfois bien pendue.
Bien pendue.
Et puis, voici ce qui indique sa réserve. La plus grande marque d'esprit qu'on lui peut donner, c'est d'avoir de l'admiration pour elle. Elle aime l'encens. Elle aime d'être aimée. Et ensuite, c'est presque une petite vacherie, elle est d'un tempérament froid. Au moins, si on en croit son mari. Aussi lui avait-il obligation de sa vertu. Comme il disait, toute sa chaleur est dans l'esprit. Donc, ah oui, vous voyez, dans la famille,
pas trop aimable.
Il y avait une certaine tradition de réserve.
Et ce portrait a été publié du vivant de Madame de Sévigné.
Et ce portrait a été publié du vivant de Madame de Sévigné.
C'est sévère.
Et il s'en est suivi une bruit de quelques années avec l'auteur, Bussy-Rabutin, lequel Bussy était un libertin. Et encore une fois aussi, il avait des amis parmi les frondeurs, des amis parmi les jansénistes, et Louis XIV l'a éloigné de la cour.
Oui, ça n'a pas dû le rapprocher du roi.
Non, il a vécu la plus grande partie. Alors, d'abord, il a fait plusieurs séjours à la Bastille, et ensuite, il a vécu la plus grande partie de sa vie en Bourgogne, dans son château de Bussy. Et il a fait des séjours à Paris, mais n'est jamais vraiment revenu. Ce ne l'a pas empêché d'être élu à l'Académie française. Vous voyez, c'était un homme tout à fait remarquable. D'abord, c'était un militaire. Et un militaire qui aurait voulu faire de la politique. Il a laissé des mémoires tout à fait intéressantes. Et encore une fois, on vient de le dire au début de notre entretien, c'est dans ses mémoires qu'il a inséré quelques-unes de ses lettres comme document et les réponses de Madame de Sévigné. Donc, on parlait de sa place à la cour, qui est un peu marginale, mais elle eut volontiers accepté une charge. Par exemple, en 1680, il y a une nouvelle dauphine qui arrive, et elle va lui rendre visite pour, dites, elle, dans une lettre, vérifier si elle est aussi laide que la réputation qu'on lui fait. Et,
c'est sympathique.
Voilà. Non, mais elle a encore une fois, là, comme dit Bussy, le ton un peu badin. Et donc, elle constate que, en effet, si ce n'est pas une beauté, elle a néanmoins de très beaux yeux pétillants et beaucoup d'esprit. Et évidemment, cette nouvelle dauphine constitue une cour des dames d'honneur. Et elle aurait bien aimé en être, et elle écrit à sa fille, malheureusement, je ne suis plus en âge, je n'ai plus la beauté nécessaire pour prendre une charge ou pour qu'on me propose une charge, je ne suis plus de ce pays-là. Nous sommes en 80, elle a donc 46 ans, elle commence à s'éloigner déjà un tout petit peu de la cour. Voilà.
Je vais juste rappeler que nous sommes sur Radio Courtoisie, et donc vous écoutez l'émission Français, mon beau souci. Robert Kopp est mon invité, qui parle brillamment de la marquise de Sévigné.
Eh bien, la courtoisie, en effet, est un sujet de ces lettres, et comme nous venons de le dire, la courtoisie joue un grand rôle dans le mouvement des précieuses.
Oui, qui est souvent indiqué de façon péjorative. C'est-à-dire,
oui,
c'est toujours, surtout on rappelle, comme vous le disiez, Molière, donc que
c'est
les caractères...
Molière, oui, c'est Molière.
Alors que c'était un mouvement qui n'était pas inintéressant contre
une
société un peu rustre.
La cour était, sur Henri IV, guerrière, grossière. On sortait des guerres de religion. Il y en a quand même eu 8, si je ne m'abuse, ce qui fait beaucoup... La France était souvent en guerre contre elle-même.
Après, il y a eu La Rochelle, il y a eu le cardinal de Richelieu, tout était très violent.
La France était souvent en guerre contre elle-même.
Oui, c'est un peu son habitude.
C'est malheureusement. Son habitude, oui, c'est ça. Il y a une espèce de guerre civile larvée qui fait partie de l'ADN français, pourrait-on dire. Oui, donc... Cette vie nobiliaire un peu grossière, dont Madame de Sévigné a fait l'expérience, elle a quand même perdu son mari parce qu'il s'est battu en duel pour une maîtresse.
Oui.
Voilà. Alors, son père est mort quand elle avait 18 mois parce qu'il se battait contre les Anglais sur l'île de Ré. Mais son propre mari, le père de ses enfants, est mort en duel parce qu'il se battait pour une
maîtresse.
Voilà, ce qui était assez habituel. Et la vie sentimentale de son fils Charles, dont elle est assez proche, contrairement à ce qu'on dit parfois, car il lui fait beaucoup de confidences sur sa vie sentimentale, eh bien, c'est aussi quelqu'un qui a quantité de maîtresses, qui d'ailleurs en ramasse même encore une, Ninon de l'Enclos, qui a été celle de son père auparavant, qui attrape des maladies vénériennes, qui en parle à sa mère, qui le conseille comment se soigner, qui a parfois des mésaventures parce que il n'est pas tout à fait à la hauteur de la situation, et elle raconte ça à sa fille, voilà, votre frère, eh bien, son dada restait court sous l'Érida, un des épisodes de la guerre des Français en Espagne, qui n'a pas tourné aux avantages des Français. Donc, c'était des mœurs...
Oui, des mœurs qui...
Assez libres et d'une certaine, grossièreté, pourrait-on dire.
Ce qui explique pourquoi, peut-être, que certaines lettres ont été réécrites
ou mises
sous le boisseau.
C'est-à-dire, évidemment, les affaires financières ont été mises sous le boisseau, et les impiétés, les remarques contraires à la religion ont été évidemment gommées, et puis les aventures galantes aussi ont été un tout petit peu, non pas tues, mais enfin, on ne les mettait pas nécessairement.
Il a eu des aventures galantes après son veuvage?
Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. On lui a prêté une aventure, et elle a failli se compromettre avec Fouquet, le surintendant des finances. Vous savez que lorsque Louis XIV a pris le pouvoir, après la mort de Richelieu, l'homme le plus puissant, le plus riche du royaume, c'était Fouquet, c'est celui qui a construit Vaux-le-Vicomte. qui est peut-être le plus beau château français qui soit, parce qu'il a été construit selon des plans de le nôtre en très peu de temps. Pas comme Versailles, où on a rajouté une aile, une autre aile, une autre aile, une autre aile, etc. C'était beaucoup plus uni. Et il a donné de grandes fêtes. Et la cour de Fouquet était la cour la plus élégante, où travaillaient tous
Pas beaucoup plus à Louis XIV.
Mais oui, c'était la concurrence. Alors que, il y a cette fameuse fête qu'il donnait pour Louis XIV, qui n'y allait pas pour la première fois d'ailleurs. Mais c'est simplement la goutte qui a fait déborder le vase, en quelque sorte. Car Molière travaillait pour Fouquet, Corneille, La Fontaine, les grands peintres, Lebrun, l'autre, etc. Donc cette fête absolument somptueuse, au moment où Versailles était encore au relais de chasse, n'a pas plu à Louis XIV. Et l'abbé Choisy raconte dans ses mémoires qu'en rentrant avec sa mère, la reine était restée à Fontainebleau parce qu'elle était enceinte, madame, nous allons rendre gorge à ces gens-là. Et un peu plus tard, à Nantes, Fouquet a été arrêté par qui ?
D'Artagnan.
Voilà. Vous voyez, il faut relire Dumas parce que exactement, toute l'histoire de France y est. Et Fouquet, l'homme le plus riche et le plus puissant du royaume, on lui a fait le procès et il a fini sa vie à Pignerol dans une forteresse. Et Madame de Sévigné, qui lui avait demandé un peu d'aide pour un de ses cousins, s'est trouvée à presque compromise parce qu'on a retrouvé des lettres d'elle dans les papiers de Fouquet.
Nous allons terminer cette émission par cette fin un petit peu difficile pour Fouquet. Une prochaine émission le 18 mai 2026. Nous retrouverons peut-être Robert Kopp, que je remercie infiniment pour cette émission et cette érudition.
C'est à vous, cher Marc, qu'il faut adresser des remerciements.
Vous venez d'entendre « Français, mon beau souci » dirigé par Marc Favre d'Échalant, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 20 avril 2026 de 10h à 11h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir à un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.